أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. Mes frères en islam, remercions avant tout Allah Azza wa Jal, le très clément, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui encore une fois nous donne cette chance, cette opportunité de pouvoir nous réunir quelques instants afin d'écouter quelques paroles concernant notre dîn et continuer inshallah dans la lancée de la semaine dernière où nous avions pu commencer à voir quelques explications, quelques enseignements que nous ont légués nos pieux prédécesseurs par rapport aux 10 dernières sourates du Coran. Comme nous l'avions dit la semaine dernière, nous allons, inshallah, essayer de voir ces 10 dernières sourates par paire. Ce qui fait que, lors de notre dernière intervention, nous avions pu voir quelques explications et tirer quelques leçons de la sourate Al-Fil ainsi que de la sourate Quraysh. Et ce matin, inshallah, ce sont justement les sourates que l'on vient de réciter, nous allons nous pencher vers la sourate Al-Ma'un et la sourate Al-Kawthar. Dans un premier temps, nous allons essayer de présenter de manière individuelle ces deux sourates pour ensuite, avec l'aide d'Allah, faire une synthèse et voir les quelques enseignements que nos pieux prédécesseurs nous ont légués par rapport à ces deux sourates. Premièrement, la sourate Al-Ma'un. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Cette sourate est une sourate qui a été révélée avant l'Hijr, à Makkah Mukarrama. C'est une sourate mécoise qui est composée de 7 versets. Et à travers cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décrire certaines caractéristiques propres aux munafiqoun, aux hypocrites. Des personnes qui, en apparence, se disaient être musulmans, faisaient croire qu'ils étaient mu'mines, mais qui, au fond, n'étaient rien d'autre que des kuffars, des infidèles. Et pour bien comprendre la teneur du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire passer, il délivre à travers cette sourate, il faut se remettre dans le contexte dans lequel cette sourate a été révélée. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il obtient la prophétie alors qu'il est âgé de 40 ans et à ce moment-là, il est à Makkah Mukarrama. Makkah Mukarrama qui se trouve dans la péninsule arabique et la péninsule arabique, à ce moment-là, est un endroit, une localité qui est totalement délaissée du reste du monde. La preuve, l'Empire byzantin ainsi que l'Empire perse, les deux superpuissances de l'époque, n'avaient jamais eu même l'idée de se tourner vers cette localité. Pourquoi ? Parce que les Arabes de l'époque étaient des personnes qui vivaient d'une manière tout à fait particulière. En fait, il y avait à Makkah Mukarrama et de manière générale dans la péninsule arabique, des clans, des tribus. Et si une personne ne faisait pas partie d'un de ces clans, d'une de ces tribus qui était renommée, qui avait plus ou moins de la richesse, qui en termes militaires pouvait s'imposer, alors ces personnes, ne faisant pas partie de ces clans ou de ces tribus, n'avaient pas de place dans la société. Pire, c'était des personnes qui auraient pu être l'objet de toutes sortes de persécutions et d'abus de la part des autres personnes. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Makkah Mukarrama alors qu'il est âgé de 40 ans avec la révélation, le wahi. Et des sourates comme Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, la sourate Al-Ma'un. La sourate Al-Ma'un qui pousse les musulmans à faire preuve de gentillesse, de tendresse, à faire preuve d'humanité envers ceux qui entourent les musulmans. Et bien, vous pouvez bien comprendre que cette sourate, elle va bouleverser les Quraysh. Ce genre de message va changer l'ordre établi. Et ce qui fait qu'à Makkah Mukarrama et plus tard à Madinatul Munawwara, il y aura différents groupes qui vont se mettre en place. Déjà à Makkah Mukarrama, il y a deux groupes qui vont se mettre en place face à la révélation de telle sourate. Le premier groupe, c'est le groupe des gagnants. Ceux qui acceptent l'islam, ceux qui acceptent le message du Coran et celui du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, Bilal radiyallahu anhu. Ces premières personnes qui vont accepter l'islam. Et déjà, une parenthèse que l'on peut ouvrir, parmi les personnes qui vont accepter l'islam à l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même parmi ces personnes, il y aura deux groupes. Il y a le top des tops, ceux qui ont accepté l'islam durant les premiers jours de la mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va qualifier dans le Coran comme étant was-sabiqun al-awwalun. Les premiers, ces personnes comme Abu Bakr radiyallahu anhu, Khadija radiyallahu anha, Bilal radiyallahu anhu, Khubayb radiyallahu anhu, Yasir radiyallahu anhu, Ammar radiyallahu anhu, ces personnes qui au moment où ils acceptent l'islam, rien ne peut leur faire comprendre, ne les laisse comprendre ce que l'avenir les attend. À ce moment-là, ils ne savent pas que dans plusieurs années, ce sera toute la péninsule arabique qui aura déjà accepté l'islam. Ils sont prêts à se mettre à dos tout Makkah Mukarrama, quelquefois leurs proches, leurs familles, leurs parents, uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces personnes-là en disant أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a fait, entre guillemets, passer un examen à ces personnes afin de voir si dans leur cœur il y a la taqwa. Et les examens que ces personnes-là ils passaient, ce n'était pas une série de questions à répondre. Ces examens-là, c'était quoi? C'était, par exemple, le fait d'allonger Bilal radiyallahu anhu sur le sable brûlant de l'Arabie en plein soleil du midi. Et là où il était frappé par ses tensionnaires. Ces examens-là, c'était quoi? C'était quand Soumaya radiyallahu anha fut torturée devant sa famille, devant ses enfants, à un point tel qu'elle perdit la vie. Ces examens-là, c'était lorsque ses compagnons radiyallahu anhum étaient tellement persécutés que quelquefois le prophète d'Allah était obligé de les aider, de leur remonter le moral en leur disant que faites preuve de sabre. Par exemple, pour la famille de Yasir radiyallahu anhu, ô vous les Alou Yasir, recevez dès maintenant la bonne nouvelle d'une récompense incalculable, incommensurable dans le Akhira. Ça, c'est le premier groupe. Ceux qui, face à la révélation de telle surah, ont accepté le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième groupe, ceux qui n'ont pas accepté iman. Ceux qui, pire, se sont mis à persécuter les musulmans, à mal agir envers ceux qui avaient accepté le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tard, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va quitter Makkah pour se rendre à Madina, il y aura un troisième groupe qui va se mettre en place. Les munafiqoun, les hypocrites. Ceux qui, face à l'arrivée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans à Madina Munawwara, comprennent que si ils restent sur leurs anciennes croyances, ils ne pourront pas profiter de beaucoup de profits matériels, ou encore ils vont se sentir peut-être mis de côté. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter l'islam de manière factive. En apparence, ils sont musulmans, mais au fond, ils ne le sont pas. Et ce sont eux qui vont causer le plus de tort aux musulmans. Parce qu'ils attaquent l'islam, les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, de l'intérieur. Et c'est par rapport à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran « Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar » Ce genre de munafiqoun, eux, ils auront un châtiment douloureux dans le Jahannam. Et dans cette sourate justement, la sourate Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer une des caractéristiques décrivant donc ces munafiqoun. Que ce sont des personnes qui, en apparence, prient. Ils accomplissent la salah au vu et au su de tout le monde. Mais lorsqu'on leur demande d'agir bien, de faire preuve de gentillesse, de tendresse, d'entraide avec ceux qui sont dans la nécessité, qui sont dans le besoin, alors il refuse. Cela, en quelques mots, la présentation que nous faisons de la sourate Al-Ma'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec la sourate Al-Kawthar. Et dans la sourate Al-Kawthar, qui est la plus petite sourate du Coran, en termes de mots, mais qui est très riche en enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala, il débute cette sourate en disant au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna a'tainaka Al-Kawthar ». Nous t'avons certes accordé Al-Kawthar. Alors les ulama, ils ont donné différents avis qui sont complémentaires par rapport à la définition d'Al-Kawthar. Al-Kawthar, pour résumer, c'est beaucoup de biens, des biens en grand nombre, que ce soit dans ce monde ou dans le Akhirah. Des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis d'accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Kawthar, il faut bien comprendre, c'est un terme qui est spécifique au Coran. Et beaucoup de commentateurs, à la lumière de plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous expliquent qu'Al-Kawthar, c'est un bassin que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont il sera le propriétaire le jour du Qiyamah. Et pas n'importe quel bassin. Pour comprendre la teneur, on va dire, de ce bienfait qu'Allah il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut se rappeler les ahadiths ainsi que les versets du Coran qui nous décrivent le Qiyamah. Le Qiyamah, ce sera un jour terrible. Un jour où il fera une obscurité sans précédent. Et ce sera un jour où il fera extrêmement chaud. Dans les hadiths, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le soleil sera au-dessus de nos têtes. Les gens seront tellement affolés qu'ils ne vont plus se reconnaître les uns des autres. Dans le Coran, Allah il nous parle de parents qui ne voudront plus reconnaître leurs enfants, de frères qui vont fuir leurs frères. Un jour terrible. Et dans cette plaine du jour du jugement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sera auprès de ce bassin d'Al-Kawthar. Et il appellera les gens de sa communauté, qu'Allah il fasse que chacun de nous soyons parmi ces personnes-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder ce bienfait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va appeler chaque personne de sa communauté afin de les abreuver de l'eau de ce bassin de Kawthar. Et cette eau-là proviendra directement du Jannah, du paradis. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, de cette sourate, il dit au prophète d'Allah, nous t'avons accordé Al-Kawthar. Mais quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il annonça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il annonça au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment de sa vie où il était plus ou moins touché, où il était triste. Pourquoi? Parce que cette sourate va être révélée après que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va être atteint au plus profond de lui-même par une parole dure, une mauvaise parole qu'avait prononcée un polythéiste mécois. Un polythéiste mécois qui va oser s'attaquer au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que au prophète d'Allah, ou en disant que Muhammad, sa mission, son dîn, le message qu'il a amené n'est pas amené à perdurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de descendant homme, mâle. En fait, cette sourate va être révélée au moment où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va voir un de ses fils décédé, quitter ce monde. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 4 filles. Il a eu 2 fils qui sont décédés en bas âge. Et lorsque le premier fils, il quitte ce monde, alors le prophète d'Allah, il est déjà affecté. Il perd un enfant. Et en plus de cela, un polythéiste mécois, il va dire des propos totalement inappropriés à l'encontre du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, il ne verra pas sa mission continuer, perdurer à travers le temps, vu que il n'a pas de descendant, garçon, mâle. Et c'est pour réconforter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler cette sourate. Inna a'tainaka al-kawthar. Eux, ils te disent cela. Nous t'avons accordé al-kawthar. Mais Allah, il continue. Nous t'avons accordé ce bienfait. Fasalli li rabbika. Fais la salah, accomplis la salah pour ton Rabb. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar est accompli le udhiya, le qurbani. Inna shani'aka huwa al-abtar. Eux, ils te disent que ta descendance n'est pas amenée à perdurer. Mais nous t'accordons tous ces bienfaits et nous t'assurons le contraire. De ces deux sourates, la sourate Al-Ma'un ainsi que la sourate Al-Kawthar, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Déjà, le premier point que nous pouvons retenir, c'est que de ces deux sourates, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à faire preuve de reconnaissance par rapport aux bienfaits qu'il nous a accordés. Exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit à travers la sourate Al-Fil ainsi que la sourate Quraysh. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Vous savez, les ulama, entre autres, Mawlana Manzoor Nu'mani, rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire que si l'on veut présenter à quelqu'un qui n'a pas iman, qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve qu'Allah existe, il suffit simplement de lui rappeler les bienfaits divins à son égard, puis de lui demander s'il trouve normal qu'une force supérieure agisse de cette manière à son égard. De même, si l'on voit quelqu'un qui serait sujet au désespoir, qui serait dans un état dépressif, qui penserait ne servir à rien ou être n'apprécié de personne, il faut lui parler dans ce sens, lui dire que n'as-tu pas une main par laquelle tu peux saisir? N'as-tu pas une bouche par laquelle tu peux parler? N'as-tu pas de l'air à profusion par l'intermédiaire desquels tu peux respirer? De l'eau pour boire, un soleil qui se lève à telle heure très précisément pour toi, alors qu'il se trouve à des millions de kilomètres. Alors quand quelqu'un il bénéficie de tant de sollicitudes de la part d'une force supérieure, comment peux-tu penser ne pas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le premier point que nous pouvons retenir, toujours faire preuve de gratitude, de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Et dans ces deux sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque également le fait d'adorer Allah, de faire les ibadat. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire son adoration après avoir parlé des bienfaits. Ce qui nous pousse à comprendre, encore une fois, que la meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le faire en exprimant sa reconnaissance pour tant de faveurs qu'il nous a accordé. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande par l'intermédiaire de l'adoration de faire preuve de reconnaissance envers lui pour les bienfaits qu'il nous a accordés, il cite quoi? La forme la plus grandiose et la plus appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration, la salah. Il nous parle de la salah. Vous savez, les deux sourates que nous venons de citer, la sourate Al-Ma'un ainsi que la sourate Al-Kawthar, ce sont les deux dernières sourates où Allah subhanahu wa ta'ala, il va dans le Coran parler de la salah. Après ces deux sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'évoque plus la salah. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est quoi? C'est que durant tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vanter les mérites de ceux qui accomplissent la salah. Il va nous demander d'accomplir la salah et il va vanter les mérites de ceux qui prient. Mais dans la sourate Al-Ma'un, qu'est-ce qu'Allah il nous dit? Fawailul lil musallin. De manière tout à fait très surprenante, Allah il maudit ceux qui accomplissent la salah. Mais qui? Ceux qui accomplissent la salah, mais qui sont négligents dans la pratique de leur salah. Ceux qui sont négligents dans la pratique de leur salah. Et pour apporter le remède à cela, dans la sourate qui suit, qu'est-ce qu'Allah il va nous dire? Si tu veux que tu ne sois pas négligent dans ta salah, alors fais preuve de sincérité. Prie, accomplis la salah uniquement et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, les ulama, ils nous disent qu'il existe deux sortes de rafla, d'insouciance concernant les bonnes actions. Il y a une rafla, une insouciance qui consiste à, qui s'exprime, pardon, dans le fait de faire l'action, lorsque l'on va se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et il y a une autre rafla, une autre insouciance qui s'exprime dans le fait de faire l'action, de parfaire l'action. Il y a le fait de ne pas faire l'action, mais il y a également l'importance de bien faire cette action. Et pour cette dernière mention de la salah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'insouciance en ce qui concerne le fait de parfaire l'action, parfaire la salah. Combien de musulmans, combien parmi nous, accomplissons la salah depuis tant d'années? Mais combien sommes-nous négligents dans la pratique correcte de cette salat? Combien parmi nous accomplissons la salat avec tant de légèreté? Combien parmi nous profitons de ces quelques minutes du rendez-vous qu'Allah il nous donne avec lui pour faire craquer une à une toutes nos articulations? Combien sont ceux qui sont si rapides dans leur position de la salat qu'on se demande est-ce que la personne a pu lire ou non les tasbihat que l'on devrait lire de cette position? Bref, à nous de comprendre l'importance de la salat, mais de comprendre également l'importance de présenter une salat qui soit belle devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith de Jibril, que chacun d'entre nous connaissons, lorsque Jibril alayhi salatu wa salam, il interroge le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa salam en disant « Mal ihsan ?» Qu'est-ce que le ihsan? Le prophète d'Allah, il va répondre que l'on adore Allah comme si on voyait Allah. Et si on ne peut pas voir Allah, mais Allah, il nous voit. Ça, c'est la définition du ihsan. Le terme ihsan vient de husn en arabe. Husn qui veut dire la beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Allahu al-jamil wa yuhibbul jamal. Allah, c'est celui qui est beau et qui aime la beauté. Mais présentons à Allah subhanahu wa ta'ala une salat qui soit belle. Une salat qui, aussi bien dans sa forme, dans la manière de faire le qiyam, le ruku, le sajda, dans notre qira'a, et même dans le fond, en ce qui concerne notre niya, notre sincérité, soit belle. Une salat qui sera pour nous un moyen de réussir aussi bien dans la tombe que le jour du qiyama. Juste par rapport à la salat, un verset qui me vient à l'esprit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que le jour du qiyama, il y aura ces personnes dont les comptes seront faciles. Les comptes seront faciles. Alors Aïcha radiallahu anha, une fois, elle va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela signifie véritablement? Ceux qui le jour du qiyama pourront profiter d'un compte, d'un hisab qui soit facile. Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va expliquer cela. Il va dire que c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre les livres de compte. Et on va juste feuilleter ce livre, et Allah il va dire c'est bon, entre dans le Jannah. Pourquoi? C'est un compte facile et on doit demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à prendre les comptes un à un, qu'Allah il nous préserve. Et dans un autre hadith, Mufti Taqi Uthmani hafidhahullah ta'ala, il nous explique cela. Parallèlement à ce tafsir, à un autre hadith, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le jour du Qiyama, la première chose à propos de laquelle on aura à rendre compte, ce sera la salat. Donc en liant ces deux hadiths, qu'est-ce qu'on le comprend? Si quelqu'un, sa salat, il est fait correctement, alors son compte, il sera facile. Lorsqu'on prendra les comptes de la salat, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fera de sorte que les comptes se feront très rapidement. Alors que celui qui, la salat, à propos de la salat, il y aura des manquements, eh bien, on commencera à feuilleter plus, avec plus de précision, son livre de compte, qu'Allah, il nous fasse que nous puissions accomplir une salat qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand dans la surah Al-Ma'un, justement, on avertit sur la gravité de cette insouciance, et dans la surah qui vient après, la surah Al-Kawthar, on offre une clé pour faire disparaître cette insouciance, qui est le ikhlas. Accomplis la salat pour ton Rabb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse de nous des gens sincères et dévoués à lui, des gens qui accomplissent les actions pour Allah, mais qui accomplissent ces actions de manière correcte également. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela, inshallah, à travers nous. Jazakumullah.